Bon, bonsoir, bienvenue à ce débat sur le polar roman qui vit des heures fastes avec nos invités. Alors attendez que je les repère déjà, j'ai pas eu le temps, voilà, ok.
Dans le bon ordre.
Désolé encore pour ce retard dû à une petite confusion d'horaire. Donc ce que je voulais vous proposer, c'était de parler un tout petit peu de chacun des livres d'abord plus près. Parler d'abord de chacun des livres quelques minutes et ensuite débattre du polar comme genre. Je sais que vous n'avez pas cette fois un polar, mais vous en avez écrit par ailleurs. Donc voilà, c'est le thème de cette conversation. Donc je ne sais pas si vous avez connaissance des trois livres. Alors on va les présenter l'un après l'autre. Alors on va commencer avec Quentin Mouron, c'est vous. L'âge de l'héroïne. Alors, Quentin Mouron, vous êtes suisso-canadien, vous êtes né à Lausanne, chroniqueur pour plusieurs journaux, et donc trois romans déjà publiés en Suisse chez Olivier Moratel. Celui-ci, donc, c'est l'histoire d'une enquête menée par un détective. Ça se passe à Topona, une petite ville du Nevada qui existe vraiment.
Absolument.
Vous y êtes allé ?
J'y suis très peu allé parce que je n'ai pas envie de faire du documentaire, donc quand je me rends... Quand je choisis un espace de travail, alors tout dépend de ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de parler évidemment de quelque chose qui touche directement les habitants, qui touche directement les gens qui y vont, je choisis évidemment un décor qui me convient, que je connais parfaitement. Quand il s'agit de poser des personnages, poser un discours, poser des situations romanesques, je préfère des endroits que je connais mal. Donc je suis passé, j'ai vécu au Nevada quelques temps, j'ai vécu en Californie plutôt, mais aussi au Nevada. Je suis resté quelques mois là-bas, donc je connais un peu Tonopah, j'y suis passé, c'est un endroit d'ailleurs où on passe, on voit pas tellement pourquoi on s'y arrêterait. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'utiliser un décor que je connaissais mal.
Mmh. Bon, on peut aussi se renseigner aujourd'hui par Internet assez facilement, Google...
Oui, mais ça c'est le problème d'ailleurs, c'est ouais. Le problème c'est que quand vous admettez vouloir faire un roman réaliste, vous avez toujours un petit malin qui va aller sur Google Maps, c'est arrivé, qui m'a dit « Mais là, vous vous êtes trompé de nom de rue, c'est pas tout à fait ça. » Et puis l'église que vous avez dite cubique, en fait, elle est triangulaire. Vous n'avez pas fait le tour. Et forcément, quand on écrit des romans, on fait le tour de beaucoup de choses, mais c'est pas forcément des églises.
Donc, vous n'avez pas situé ça aux États-Unis parce que c'est vendeur de situer ça aux États-Unis, comme on fait souvent, sans citer de nom.
Non.
C'était vraiment par...
Je sais même pas si c'est vendeur, d'ailleurs. Peut-être, mais c'est déjà un rapport de voisinage. J'ai vécu, disons, au Canada, je connais bien les États-Unis, j'y ai vécu 2 ans personnellement, donc pour moi, c'est pas plus artificiel que de placer ça à Morges, que je connais moins bien que Los Angeles.
Alors, il y a un personnage que je trouve intéressant, en dehors du détective. Alors, on a des personnages qui sont plutôt sombres, mais il y a une adolescente qui, elle, fait contraste un peu, qui est pleine de vie, même si sa vie n'est pas très facile. Ce que je voulais vous proposer...
Ni très longue, d'ailleurs.
Ni très longue, mais ça vous dévoilait quelque chose, déjà. Je voulais voir si vous seriez d'accord de lire un petit passage.
Bien sûr.
C'est celui où on parle d'elle, justement.
Avec grand plaisir, là.
Jusqu'ici.
Oui, voilà. Parfait. On se trouve dans un diner, dans un vieux diner américain à Tonopah. Les clients sont pressés et réclament des pancakes, des œufs, des saucisses. Léa, souriante, s'active d'une table à l'autre. Elle rallonge les cafés, distribue les pancakes, amène le sucre en poudre, le chocolat fondu, la confiture de fraises. Ses traits sont tirés. Elle n'a pas dormi, pense Franck, assis avec son page au fond du restaurant. Devant eux, 2 omelettes fumantes, 2 thés verts et 1 exemplaire du Cri de Tonopah. Franck observe Léa. Elle répond avec douceur au groupe de Pakistanais qui aimeraient du porridge, à la vieille dame allergique au gluten, au trio d'Instagrammeuses anorexiques qui ne tolèrent que les graines de chia. Elle indique poliment la route pour Carson City, pour Las Vegas, pour Silver Peak. Elle affronte le courroux de ceux qui jugent l'omelette manquée, le bacon calciné, les œufs pochés trop froids. Comment tenir 17 ans dans cet endroit, pense Franck. Comment ne pas faire écrouler le théâtre? Comment ne pas crever ses voûtes? Quand on est d'une telle envergure, ça semble impossible. Les enchantements du fast-food américain opèrent sur les clients. Ceux qui pull-upent 12 heures par jour dans un resto n'y ont pas droit. Ils se traînent d'une table à l'autre avec un sourire faux qui est la condition de leur survie. Ils essuient le sol, les tables et les reproches. Ils avalent des couleuvres et des médicaments. Parfois, ils se tuent. Mais Léa se tient droite. Comme elle fait front, pense Franck. Quelle haine, quelle vie dans son regard.
C'est pour ça que vous avez ce personnage, pour mettre un côté plus, poétique, on va dire.
Non, je ne sais pas si on écrit pour mettre des côtés poétiques. Je crois qu'elle est venue, elle s'est affirmée, pas d'elle-même, ça fait un petit peu platonicien de le dire, mais je crois que c'est venu simplement. J'ai eu envie de reprendre Franck, j'avais quelque chose qui se passait au Nevada, et cette jeune personne, cette femme, s'est très vite imposée à moi, finalement. Elle a quelque chose d'un peu cornélien, elle a quelque chose de pas très actuel, et elle a quelque chose de très contre le monde, en fait, tel qu'il se donne. Et c'est peut-être ce qui en fait, d'ailleurs, une vraie, véritable héroïne. Je crois que les héros, les héroïnes sont toujours, d'une certaine manière, contre le monde. Et pour ma part, c'est vrai qu'elle s'est imposée rapidement. Et ensuite, le personnage de Franck, le détective cocaïnomane, personnage principal, en tout cas dans le précédent livre, dans celui-ci un peu mis en retrait, mais s'active autour, et je crois qu'il y a vraiment un contraste, un jeu qui se crée entre les deux, et puis ils évoluent dans un monde de clichés, un monde de poussière, qui est l'ouest des États-Unis.
Un monde un peu glauque, quand même.
Un monde glauque, oui, je crois que c'est un monde assez glauque, finalement, oui. Je pense qu'on peut le dire, mais c'est pas un monde glauque au sens où il faudrait absolument rendre les choses tragiques. C'est pas un monde glauque au sens où il y a des meurtres dans tous les coins, au sens où tout le monde s'entretue, au sens où on risque de mourir. C'est pas du tout ça. C'est plutôt un monde plus que glauque, je dirais un monde poussiéreux, un monde ensablé, un monde quelque peu terne, et un monde dans lequel, oui, on peut se sentir mal et en inadéquation, et c'est le cas de mon héroïne.
Et on sent un plaisir de l'écriture.
Alors, quand j'écris, j'ai pas beaucoup de plaisir. Par contre, j'ai un plaisir à me relire. Ça, c'est quand même. Mais disons.
C'est bien, quoi.
Ah, je me dis quand même, c'est pas mal, quoi. Et... Mais de l'écriture elle-même,
c'est
pas
qui écrit ça.
C'est un peu ça.
Dis-moi.
Pardon, ça sortait du cœur. Et... Non, mais de me relire, disons, pour retravailler le texte. Mais j'ai un plaisir de l'écriture, pas tellement. Pas tellement. Pas énormément. Alors, j'ai du plaisir, mais c'est vrai que comme en fait, je coupe beaucoup aussi quand j'écris. Et là, il reste plus grand-chose de tout ce qu'il y avait avant, parce que j'avais envie de me rendre quelque chose de très essentiel. Donc de l'écriture elle-même, non, parce qu'après on se dit mais tout ça, je vais devoir enlever. C'est pas le grand moment. Mais par contre, oui, me relire, je dois dire que ça me plaît assez.
Le magazine Le Point a écrit que c'était un roman foutraque, lyrique, décadent. Ça vous convient ?
C'est un peu comme leur journal. Mais disons... oui, non, mais je crois que c'était vaguement positif. Oui, oui, en tout cas décadent, foutraque. Pas vraiment foutraque, parce qu'il est quand même très construit, mais il y a quelque chose d'assez bordélique dans les personnages, je suis assez d'accord.
Jean-Louis Kuffer, le critique littéraire ex-24h, écrit ceci. Le canevas narratif de l'âge de l'héroïne, autant que la dramaturgie de son intrigue policière, sont à la fois sommaires, d'où la frustration prévisible de lecteurs en quête d'enquêtes subtiles ou compliquées, et sans importance, et c'est là que je vous ferai réagir, l'intérêt du livre est ailleurs, dans la confrontation d'un univers déliquescent, notre monde, et de personnages obéissant à la logique folle de celui-ci, ou lui résistant, de diverses façons. Ça vous convient ?
Oui, je crois qu'il fait bien de relever que l'intrigue est sommaire, parce que c'est vrai que si on le lit comme on lit un vrai polar, mais c'est vrai que quand je prends l'avion, j'ai toujours envie d'un bon polar, surtout quand c'est un long courrier, donc je chope un livre, et c'est vrai que moi, ça m'emmerde s'il n'y a pas une intrigue qui est résolue à la fin du truc, parce que sinon je me dis, bon, c'est pas ce que j'avais envie pendant mon vol. Mais je pense que c'est pas tout à fait un livre qui se lit de la même manière, dans le sens où l'intrigue est très secondaire, et c'est surtout les... Alors, je dis pas qu'elle est mauvaise, l'intrigue, c'est une... Simplement, il y a peu d'intrigue, mais comme dans beaucoup de livres, hein, dans le château de Kafka, c'est un type qui arrive dans un château, puis bon, il pine un peu sous une table, bon, il se passe pas grand-chose, quoi. Donc c'est pas l'intrigue qui est vraiment au premier plan, donc c'est vraiment pas l'intrigue.
Oui, quoi, vous n'êtes pas dans le polar où il y a des fausses pistes, un scénario très élaboré.
Non, pas du tout, non, pas du tout. C'est pas le but, et c'est revendiqué comme tel, donc c'est pas peut-être un défaut, peut-être j'arrive pas en effet à faire une intrigue, mais j'en ai pas non plus complètement envie, et c'est pas du tout le but, et peut-être c'est vrai qu'une fois, si je cherchais à le faire et que j'arrivais pas, là, je me poserais des questions, mais en tout cas, c'est pas du tout l'envie que j'ai.
Merci. Sébastien Meyer, Le nom du père, le voici, aux éditions Zoé. C'est donc... vous aussi, vous reprenez un personnage que vous aviez déjà mis dans un précédent livre, un ancien inspecteur de police vaudois, donc, enfin lausannois en l'occurrence, qui sort de prison, qui s'appelle Paul Breguet, qui est donc amené à reprendre une enquête qu'il avait laissée inachevée avec l'aide d'une procureure, Émilie Rossetti. Pourquoi vous avez eu envie de continuer avec ces personnages ?
Parce que je les aime bien, d'une part. Et puis parce qu'il y avait pas mal de choses dans les ombres du métis qui n'étaient pas achevées, pas fermées, pas terminées. Il y avait matière à continuer. Et puis, Il y avait de quoi faire un autre roman, donc je me suis dit je vais sauter sur l'occasion. Puis vraiment, il y a un attachement pour Paul Breguet.
Oui. Par contre, la thématique est nouvelle, je crois, sur le commerce de grains. Bon, il est aussi question de prostitution, d'évasion fiscale, enfin, et de la Suisse, le rôle de la place financière suisse. Mais le commerce de grains, qui devient le nouveau grand enjeu, hein, on y apprend beaucoup de choses. Comment est-ce que vous avez étudié ce monde-là ?
De manière très classique, j'ai lu énormément de choses, j'ai rencontré des gens, je me suis documenté pendant 2 ans, et puis j'ai collecté beaucoup d'informations sur ça pour comprendre en fait plus que les détails du fonctionnement de ce négoce, comprendre surtout ses rouages, ses mécanismes, etc. Donc ça, essayer de le rendre dans ce livre. Et puis ce qui m'intéressait en fait, c'était de partir de l'histoire des ombres du métis, qui est finalement une histoire assez personnelle entre un inspecteur et puis son enquête qui a foiré et qui a priori n'a pas une ampleur particulière. On dépasse pas le cadre de Lausanne, on dépasse à peine le cadre de sa prison. Et puis, ce que je trouvais drôle, c'était de relier cette apparente insignifiance à quelque chose de macroéconomique, d'essayer de jouer sur, en fait, à quel point on ne se rend pas compte que des microscopiques petites choses qui font partie de notre quotidien sont en fait elles-mêmes reliées à de beaucoup, beaucoup plus grands enjeux. Mmh. C'est là, du coup, que je suis un peu tombé sur le négoce des matières premières. Et puis, je trouve que ça, c'est assez symptomatique de cette dynamique-là, dans le sens où on est tous quotidiennement confrontés au négoce des matières premières et on ne s'en rend même pas compte.
Alors, il y a de la dénonciation hein, dans ce livre. Vous citez Jean Ziegler, d'ailleurs. Vous en inspirez, même, on pourrait dire.
Oui, je l'ai beaucoup lu.
Il y a donc les grandes multinationales de commerce de matières premières en Suisse, et on connaît mal, effectivement, leurs pratiques. C'est une intention pour vous de participer à cette mise en évidence de dénonciation, ou bien c'est juste un prétexte à une histoire ?
C'est un peu les deux. J'aime bien le terme de mise en évidence, j'aime un peu moins le terme de dénonciation. J'estime pas être là pour dénoncer quoi que ce soit, mais je pensais que c'était dans le cadre d'un roman et pour faire une intrigue qui a un peu d'originalité, que ça pouvait être un sujet tout à fait intéressant.
Il y a quand même un dialogue là entre le grand patron, oui. Beat Fuchiger, qui est d'ailleurs un personnage. Vous êtes inspiré de quelqu'un ou
Non, pas particulièrement. Il a des traits qui sont inspirés de plusieurs personnes. Il a quelques côtés blochériens. Puis, quelque part, Beat Flückiger, c'est pas vraiment un personnage réaliste. Je l'ai voulu un peu archétypal. Je veux dire, il a sa Rolls-Royce, il a son gros cigare, etc. Enfin, je voulais qu'il représente...
Il est un cynisme total.
Il est extrêmement cynique et en même temps, il a quelque chose d'un peu attachant quand même dans son
patriotisme.
Oui, il a un patriotisme naïf et complètement archaïque. Mm-hmm. Mais il y a quelque chose de presque touchant dans cet engagement qu'il peut mettre pour justifier ses pratiques et son entreprise, cette défense de la place économique helvétique. Il y a quelque chose de presque émouvant. Mais je voulais vraiment en faire un personnage qui soit une sorte de figure de ce à quoi on peut être habitué, justement.
Je voulais peut-être vous faire lire ça, si vous voulez. C'est un dialogue avec Émilie Rossetti. C'est vers la fin du livre, mais ça ne dévoile pas la fin de l'histoire.
Tant mieux.
Entre les marques, là.
Alors. Ce que vous devez comprendre, c'est que ces transactions pétrolières...
C'est Beat Flückiger qui parle.
Flückiger. Ce que vous devez comprendre, c'est que ces transactions pétrolières qui semblent vous empêcher de dormir et réveiller vos idéaux moralisateurs de vieilles gauchistes de luxe, si ces transactions ne passent pas par la Suisse, elles passeront ailleurs. Ce n'est pas le profit qui me guide, c'est la nécessité. Vous confondez piller et faire commerce. Le commerce est la base même de notre système. Concernant la Suisse, c'est notre seule arme. Notre pays n'a aucune ressource. Il est minuscule, entouré par les requins européens. Vous croyez où ? La Suisse fait partie de l'économie globalisée. Elle joue ce jeu-là, c'est tout, ni plus ni moins qu'un autre. C'est un jeu dégueulasse, mais si elle veut continuer à avoir le même niveau de vie, il faut qu'on me laisse faire mon business. Si je comprends bien, répond Rossetti, je devrais vous remercier de piller les ressources du Nigeria, vous remercier de corrompre des gens, de blanchir de l'argent. Vous êtes qui, Guillaume Tell ? Il éclate d'un rire rugueux. Madame Rossetti, vous êtes une femme extraordinaire. Même ligotée et menacée, vous ne perdez pas votre hargne de procureur. Vous saviez qu'en 1960, les Français venaient faire leurs courses en Suisse car c'était moins cher ? Comment croyez-vous que nous sommes devenus le pays le plus riche du monde ? Par complaisance envers des pratiques inhumaines ?
Bon, c'est quand même assez expressif. Hein. Vous n'êtes pas du côté de Flückiger en écrivant ça ?
Non. Non, je dois confesser ça. Mais je ne suis pas totalement contre lui non plus.
D'accord. Merci. On va passer à vous, Joseph Incardona. Incardona, vous préférez qu'on dise ? Nom italien. Permissé. Alors, ce n'est pas un polar, celui-là. C'est un livre plus personnel. Vous êtes donc vous-même de père sicilien et de mère suisse. Vous vivez à Genève. Vous avez déjà publié 13 livres, c'est juste ?
Oui.
Vous aviez déjà écrit sur ce personnage qui est là-dedans, dont on devine que c'est un peu vous, André Pastrella, dans un précédent livre, Le cul entre deux chaises, en 2014. Il avait 22 ans. Maintenant, il a 12 ans. On remonte en arrière. C'est une année dans sa vie. Il affronte des épreuves. Pourquoi y revenir à ce personnage ? Pourquoi vouloir remonter le fil ?
Alors, il y a deux choses, parce que finalement, le cul entre deux chaises, c'est un truc qui revient, quoi. Par rapport, quand on en parle souvent, noir, polar, littérature générale, etc. Enfin, alors voilà, on va dire que j'ai deux volets dans ce que je fais. Il y a un volet plus roman noir, qui est, entre guillemets, totalement fictionnel. C'est-à-dire, mais même quand on raconte une histoire qui n'est pas forcément la nôtre, on y met quand même, évidemment, bien de choses. Bien beaucoup de choses de nous-mêmes dedans. Et puis un volet qui se veut de la fiction, toujours, du roman, surtout pas de l'autobiographie ou de l'autofiction, mais qui est largement inspiré de faits qui me sont arrivés, on va dire. Et là, j'avais envie... alors, c'est deux choses voilà, que je mène en parallèle. Une chose avec une BSN Presse, maison d'édition lausannoise, et puis le reste avec Finitude, entre autres, une maison française. Voilà, et voilà, je suis arrivé peut-être à un moment où j'avais vraiment envie d'écrire ce roman de l'enfance, ce roman de l'apprentissage. Ça fait un moment qu'il était là, mais il n'arrivait pas, puis il est arrivé. Il est arrivé peut-être parce qu'à un moment donné, après avoir... Voilà, j'ai perdu ma mère il y a quelques années, je suis devenu père, j'évolue dans ma carrière d'écrivain, dans mes pratiques, etc. Et donc, voilà, je pensais que c'était le moment et j'ai commencé à regarder un peu derrière moi. Alors, c'est pas évident d'écrire un roman sur l'enfance, d'autant plus que c'est mon roman le plus personnel parce que j'y mets beaucoup de choses à moi et puis j'y mets mes parents et puis mes grands-parents aussi dedans. Alors voilà, c'est un roman de l'adieu à l'enfance, et à l'intérieur de ça, il y a le problème de la double culture, l'appartenance, ma mère suisse, mon père italien, le fait que je déménage tout le temps, que je ne vais pas rentrer dans les hôtels, que je passe d'une ville à l'autre, etc. etc. Donc, mais en écrivant, pour faire le lien avec le polar, avec le roman noir, pourquoi, en écrivant ça, j'ai compris finalement pourquoi j'écris ce genre de littérature. Et en fait, moi, je crois que j'ai compris très vite, dans mon enfance, assez tôt, j'étais mis face à l'idée de tragédie. Alors, la tragédie, alors on peut l'entendre dans son acceptation la fin inéluctable, la mort, le fait qu'on soit peut-être comme des sortes de pantins manipulés par le destin, etc. Bon, mais... C'est l'idée de tragédie, pour moi, plutôt dans une acceptation de comprendre que la vie est fragile, que tout peut se retourner du jour au lendemain, que quand on touche peut-être des choses qui sont de l'ordre du bonheur, ben, ça peut se casser la gueule. Que finalement, voilà, cette forme de fragilité des choses. Et je me suis rendu compte que finalement, mes autres romans traitent de personnes qui se retrouvent tout d'un coup, qui basculent, qui se retrouvent de l'autre côté du miroir, on va dire. Et finalement, cette humanité, le gâchis, par exemple, d'une famille de choses qui auraient pu être différentes. Et tout ça m'a donné finalement un regard sur pourquoi j'écris du roman noir, finalement. Et ça m'a permis de revisiter des choses et puis en revisitant ces choses, de mieux comprendre qui je suis et ce que je deviens au fur et à mesure. Alors après, dans l'écriture, et surtout la dernière partie, eh bien, on ne se refait pas, parce que c'est quand même du gris. hein, parce qu'il y a quand même des choses qui sont là. Il y a des tensions, il y a toujours un flingue qui traîne quelque part parce que c'était le cas. Il y a toujours, voilà, il y a des choses qui sont, il y a la violence, il y a l'amour, il y a toutes ces choses-là que traverse un enfant. Il y a le sexe. Et la troisième partie, alors je sais plus, c'était dans le matin, je crois, le matin dimanche. Le journaliste qui pourtant est connu, bon, je sais plus qui c'est, qui écrit, dit dans la troisième partie, ça se lit comme un polar. Et effectivement, je crois que la boucle est bouclée en faisant, d'une certaine manière, avec cette remarque.
Il lui arrive des choses difficiles au petit André, notamment à l'école. Alors, je voulais vous faire lire un passage où il a été tabassé, mais il veut cacher les marques sur son corps. Et puis donc, en débutant face à ma résistance passive, et puis vous verrez la marque à la page suivante.
J'ai la vue qui baisse et puis je lis. C'est un peu honteux comme ça, mais c'est terrible, mais c'est comme ça. Ça va. Donc, face à ma résistance, c'est ça? Oui, donc, juste avant, je peux juste situer cet alter ego, André. André se fait régulièrement harceler par une bande qui d'ailleurs s'appelle la bande avec un B majuscule, et il y a le chef qui a un C majuscule. Ils n'ont pas de prénom. Ça devient presque, comme tu disais, des fois des symboles de choses. Ça devient le symbole de la malveillance. On vous veut du mal, mais on ne sait pas pourquoi. C'était quelque chose d'assez terrible. Je pense que tout le monde était confronté à un moment donné dans sa vie à ça, et on ne comprend pas pourquoi. Et donc, il se fait tabasser par cette bande. Et sa mère le retrouve le soir, parce qu'il se cache dans un buisson pour panser ses plaies, un peu comme les chats quand ils sont blessés. Face à ma résistance passive, ma mère avait fini par renoncer à retrouver la bande et son chef. Mon père jugeait l'incident mineur, une normale initiation au fait qu'il fallait se battre dans la vie, toujours se battre, aussi bien contre ceux qui nous agressent que pour obtenir ce qu'on veut. Et toi, tu as eu ce que tu voulais, papa ? Mon père m'a jeté un regard hostile, empli d'une détermination farouche. Pourtant, je sentais de la confusion dans ce regard, ce qui m'empêchait d'en avoir totalement peur. Je comprendrais bien plus tard la signification du terme velléitaire. Mon père tournait en rond dans une cage, se reprochant de s'être fait capturer sans réellement oser prendre le risque de s'évader. Qu'aurait signifié une évasion pour notre petite famille ? Ou qu'il regarde, mes parents ne voyaient que les échéances financières de la fin du mois et un territoire divisé par le massif des Alpes. Il y avait le plein emploi, oui, mais après. Un travail en appelait un autre ? Mes parents avaient fait une pause avec les métiers de l'hôtellerie, du moins ceux qui leur étaient accessibles, les horaires irréguliers, les pourboires arrondissant les salaires. Bien que mon père eût épousé une Suissesse, les innombrables allers-retours entre les deux pays ne favorisaient guère l'accès au fameux permis C, le permis de séjour de tous les espoirs, celui permettant la réelle intégration en terre helvétique.
Alors, on a entendu que vous avez des motivations personnelles à écrire ça, mais est-ce qu'il y a aussi une motivation de restituer une réalité difficile de la migration ? Il y a des tensions fortes dans la famille, on en a un premier aperçu là, elles vont grandir par la suite.
Ça rejoint vraiment Quentin et Sébastien, parce que, au fond, on a bien compris que pour nous tous, tu parlais de la fameuse intrigue, ce sont des prétextes pour parler d'autre chose. Et voilà, c'est cet aspect état des lieux d'une société, roman social, enfin, qu'on peut évoquer avec le roman noir ou le polar. C'est ça, c'est surtout raconter quelque chose, quoi, dans ta description. En fait, il y a toute une humanité qui s'installe tout d'un coup. On comprend, voilà. Or, toi, tu portes un regard encore plus... plus sur un discours plus global. Et effectivement, là, ce roman de l'adieu à l'enfance, finalement, qui s'inscrit dans un processus d'immigration, etc. Mais il y a le problème des catégories sociales, il y a le problème de l'indigence, il y a le problème de l'intégration, il y a toutes ces choses-là qu'on raconte. Parce que finalement, c'est ça le roman noir, c'est ça son essence, sans doute. Mmh.
Une question encore juste pour vous, avant de passer à la partie débat. 13 romans en 11 ans, qu'est-ce qui a déclenché cette production intense ?
Ouais, j'ai toujours beaucoup écrit, et puis alors là-dedans, dans ces livres, on va dire 13 livres, parce qu'il y a, deux recueils de nouvelles et puis une pièce de théâtre dans ça, mais bon,
c'est une nécessité, l'écriture.
Ah oui, sans aucun doute, c'est quelque chose qui me constitue. Et puis j'ai très vite compris qu'il n'y avait aucun métier qui me plairait dans la vie, et donc j'ai fait beaucoup de petits boulots. Et puis quand j'ai compris que c'était l'écriture qui me... Voilà, j'ai fait en sorte d'aller vers l'écriture en me donnant la possibilité d'écrire, donc en libérant du temps, donc ça veut dire renoncer à beaucoup de choses, en gagner d'autres, mais surtout professionnellement, c'est un pari pour avoir du temps, parce que c'est ça le nerf de la guerre, c'est avoir du temps pour écrire. Et voilà, donc après, depuis maintenant 4 ans, j'ai réussi à en vivre, donc ce qui fait que quand vous avez ce temps-là, bah du coup, vous écrivez plus parce que vous avez plus de temps. Et puis, en ce qui me concerne, après, il n'y a pas forcément. C'est quelque chose qui n'est pas quantifiable en nombre de pages, en nombre de la production littéraire, elle ne se quantifie pas. C'est chacun à ses rythmes, ses temps. Mais voilà, alors, c'est pas quelque chose de compulsif, comme ça pourrait l'être chez James Ellroy, qui est une sorte de. Mais il est compulsif comme personnage. J'ai eu la chance de le rencontrer, mais c'est un
maître du polar.
Ouais, et puis un hyperactif couplé d'un ex-toxico au speed et tout, donc ça donne un truc qui s'arrête jamais. Mais sans être compulsif, c'est une pratique régulière. Et en fait, si chacun de vous passe entre 3 et 4 heures par jour à écrire, ben, tout d'un coup, on se rend compte qu'à la fin de l'année, il y a quand même pas mal de trucs qui sont là. Donc finalement, c'est pas si incroyable. Hein. On pense que, mais non, c'est simplement, c'est du taf, c'est du boulot, et puis on s'y met, et puis voilà.
Je me permets de rebondir sur ce que dit Joseph, je trouve assez intéressant, parce qu'en effet, c'est quelque chose que j'entends parfois, et aussi pour toi d'ailleurs, tellement de livres en si peu de temps, mais finalement, pas oublier que beaucoup de gens qui écrivent des livres ont aussi souvent une activité professionnelle, et souvent à plein temps à côté. Alors forcément, je comprends que quelqu'un qui soit par exemple prof dans un gymnase, qui travaille à 100%, même à 80%, sort un livre tous les 3 ou 4 ans, et que pour lui, quelqu'un qui sort un livre tous les ans, il a l'impression que c'est forcément bâclé, du travail mal fait, parce que lui-même... Et puis, on a forcément, quand on a un travail à 100% à l'État, on peut aussi se payer une famille, et on peut aussi se payer un chalet, et se payer toutes sortes d'activités qui fait qu'on n'a pas le temps d'écrire. C'est tout à fait honorable, mais disons, je comprends aussi, et je pense qu'il faut comprendre vraiment que quand on dit mais il en sort un chaque année, il doit les bâcler, c'est pas vrai, dans le sens où tout dépend voilà des rythmes et du temps qu'on est prêt à mettre par jour ou par semaine à ses livres. Et
vous en vivez aussi?
Moi, j'en survis pas toujours bien.
Oui.
Mais c'est
rare, les auteurs qui vivent de l'écriture. C'est très, très rare.
Aussi, enfin, je veux dire,
après, il faut prendre ça aussi dans un sens un peu plus large. Donc, il y a les droits d'auteur. Alors voilà, mais effectivement, avec 13 bouquins, du coup, par exemple, cette année, il y a deux livres qui vont sortir en poche. Donc, ça vous fait de l'argent en plus, inattendu. Il y a une traduction qui tombe. Après, on vous propose de collaborer sur un scénario. Donc voilà, c'est l'écriture au sens large. C'est pas que des droits d'auteur non plus. Mais c'est vrai qu'après, il y a quelque chose qui s'installe, il y a un public qui s'élargit, il y a les ventes qui augmentent. Donc voilà, c'est ça aussi qui se met en place. Mais c'est quelque chose qui je pense... C'est aussi une volonté, parce que après, il faut savoir encore une fois, parce que j'en vis, oui, mais chichement. Je suis pas... Donc, c'est aussi de savoir ce qu'on est prêt à mettre de côté, ce qu'on est prêt à
quoi on va renoncer.
Ouais, voilà, qui pour moi ne sont pas des renoncements. Par contre, c'est bien, c'est un des conseils que je donnerais à un écrivain, c'est... Bien s'entourer du ou de la partenaire qui va vivre avec vous, parce que si vous avez quelqu'un qui a des exigences de Porsche Cayenne, ça va devenir compliqué.
Est-ce que, avant de passer à une partie plus des discussions autour du polar, est-ce qu'il y a quelqu'un a une curiosité encore sur l'un des livres, aimerait en savoir un peu plus, ou est-ce que quelqu'un en a lu l'un de ces trois livres qui sont, je crois, pas d'hier, hein. Oui, madame.
J'ai lu tous les livres de Quentin Mouron parce que je l'ai découvert à la bibliothèque avec Au point des fusions des égouts, et j'ai tellement aimé ce livre que je me suis précipitée à la librairie pour l'acheter, et puis ensuite je l'ai fait connaître un peu, et enfin, j'adore son style et j'adore sa façon aussi de dire des choses que peut-être des autres n'oseraient pas dire tout haut. Lui, il ose les dire, il dit des choses pof, et voilà. Par contre, est-ce que je peux lui poser une question ? Est-ce que je peux, comme vous n'aimez pas, vous dites que, en fait, écrire, c'est pas forcément un plaisir pour vous. Vous relire, oui. Alors pourquoi vous vous êtes lancé dans l'écriture, finalement ? C'est par paresse ou bien ?
Bon, déjà, avec, après tous les compliments que vous m'avez faits, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Non, je crois... Oui, alors c'est vrai que quand je dis que j'ai pas un plaisir fou, si je n'avais aucun plaisir, je le ferais plus. Forcément, simplement, je sais que certains auteurs autour de moi parlent vraiment d'un grand plaisir. On a l'impression vraiment qu'ils sont en train de faire l'amour en écrivant. Alors, moi, je suis très admiratif, mais c'est vrai que pour ma part, c'est un peu moins plaisant, directement plaisant. J'aime écrire, j'aime donner forme à quelque chose, j'aime le résultat. C'est pour ça que je dis que j'aime me relire, c'est que j'aime arriver à quelque chose où j'ai voulu arriver. Mais le trajet est parfois plaisant. Il y a des moments grisants, c'est vrai. Il y a aussi beaucoup de moments pénibles, parce que dans l'écriture, il n'y a pas seulement le fait d'être avec soi de son bloc-notes ou devant son ordinateur et de balancer des trucs. Ça, c'est assez plaisant. Ce qui est moins plaisant, c'est plutôt toute la relecture, mais cette fois qu'il n'est pas une relecture ludique, mais ce qui est essayer de trouver, voilà, est-ce qu'on n'a pas répété trop, est-ce qu'il n'y a pas une répétition là qui passerait mal, est-ce qu'il ne faudrait pas comparer deux phrases pour voir laquelle serait la meilleure, est-ce que ce tiret devrait pas plutôt être un point virgule. Et ça, quand on passe avec son éditeur 4, 5, 6 heures au téléphone, c'est pas très agréable. Disons, c'est pas l'image que je me fais de l'agrément ou de l'écriture thérapeutique telle qu'on la conçoit ou telle qu'on la propose parfois.
Mais c'est un bon éditeur qui vous fait des remarques de détail. La plupart prennent ou prennent pas le texte.
Alors voilà, c'est un bon éditeur. Mais même avant que l'éditeur le fasse, c'est vrai que moi, je le fais aussi pour moi-même. C'est-à-dire que L'âge de l'héroïne, c'est vraiment un roman. Alors on me dit, moi, je l'ai lu très vite, mais moi, je ne l'ai pas écrit très vite. Chaque phrase a été vraiment pesée, particulièrement dans celui-ci. J'ai voulu épurer vraiment les choses. Mon précédent roman est un peu plus fleuri, celui-là est un peu plus épuré, et donc vraiment c'était chaque phrase a un problème. Et donc quand vous devez rendre un roman qui n'est pas très long mais qui fait quand même un peu plus de 230 pages et que chaque mot compte, c'est plus complètement de l'agrément. C'est en partie, évidemment, je dis pas que je me plains pas, je dis pas que c'est complètement terrifiant, mais il y a, disons, c'est pas la chose la plus agréable non plus.
Mais peut-être j'aimerais entendre Sébastien Meyer à ce sujet. Plaisir, effort dans l'écriture, comment ça se répartit ?
Mais je crois que dans chacune des étapes, que ce soit... Moi, je distingue trois grandes étapes dans l'écriture d'un roman. Il y a la première qui est la scénarisation, qui consiste en gros à regarder mon plafond pendant des heures en attendant qu'une idée me tombe sur le coin de la gueule. Ensuite, il y a la rédaction. Et puis finalement, il y a toute l'étape de la relecture, du retravail, etc. Puis cette étape, ces trois étapes-là, pour un seul roman, peuvent avoir lieu plusieurs fois. Je peux faire plusieurs fois le tour. Et dans chacune, il y a des choses extrêmement plaisantes, d'autres qui le sont beaucoup moins. Parfois, relire, corriger, travailler dans le détail, ça me plaît énormément. Parfois, je m'arrache les cheveux sur celui-là. Je me suis arraché les cheveux un nombre de fois incalculable pour réussir à mettre sur pied ce scénario, pour réussir à avoir cette histoire, de pouvoir raconter ça, de savoir comment j'allais placer les informations techniques sur l'économie et tout ça, sans que ça devienne chiant, sans que ce soit un cours d'économie.
C'est assez complexe, votre histoire.
C'était un énorme travail. Là, je suis repassé je ne sais pas combien de fois sur ces chapitres-là pour pouvoir les refaire. Il y en a un autre qui existe, en fait, qui n'a rien de commun avec celui-là, mais il y a eu un premier essai qui n'a pas du tout marché, j'ai dû l'effacer, j'ai dû repartir de zéro. Mais dans chaque étape, en fait, il y a toujours un moment qui est un véritable plaisir, le moment où j'ai l'impression de saisir justement ce que j'avais envie de faire, et que je me rends compte que, ah, ça y est, c'est là, j'y suis, c'est bon. Que ce soit en ayant réussi à écrire une phrase, réussi à écrire un dialogue, réussi à créer une tension, réussi à mettre en place les éléments dans comme dans un jeu de construction, puis de voir le truc qui est en train de... Puis que ça tient debout. Voilà, il y a du plaisir et puis un peu de souffrance partout. Et puis tout ça, c'est très, très mélangé. Puis ça peut passer d'une minute à l'autre, d'une étape de... Voilà.
Vous souhaitiez dire quelque chose?
Mais ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de méthodes. Il n'y a aucune méthode. Enfin, tout est possible. C'est chacun de... Voilà, c'est l'expérience de vie. C'est la sensibilité de chacun qui va faire que... Qui va donner sa façon d'écrire, en fait, dans la réalisation du bouquin. Moi, effectivement, par contre, je scénarise pas. Mais il y a une idée, sur les multiples idées, il y en a une qui va finir par s'installer, qui va durer. Et puis, parfois, je vais commencer à écrire un roman sur cette idée de départ 2 ans plus tard. Mais en attendant, j'emmagasine des choses, j'observe, je note un petit truc, je commence à la genèse commence, malgré moi même, parce que voilà, vous décidez de faire un livre, je sais pas, sur quelque chose, le hockey sur glace, vous ne savez rien du hockey, tout d'un coup, comme par hasard, vous allez rencontrer un ancien champion de hockey sur glace, vous allez peut-être tomber sur un... Parce que d'un coup, vous avez mis les antennes qui... Ah ouais, ça, c'est le sujet. Donc, des choses arrivent, vont venir vers vous. Et puis voilà, puis après, je commence à vivre avec ça, et puis ces personnages vont... Et les choses vont se... Alors voilà, moi, dans le plaisir, c'est le moment du flux, c'est le moment de le plaisir... C'est comme faire des variations sur un piano. Enfin, des fois, j'ai l'impression d'être un pianiste. Quoi. Tac, tac. C'est ce plaisir immense. Les moments d'angoisse, effectivement, des fois, il faut attendre. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'est l'activité d'écrivain ? Parce que des fois, vous arrêtez 3 jours, vous n'écrivez pas. Des fois, ça m'arrivait d'arrêter 2 semaines. Parce que c'est pas là, ça vient pas. Et ça, c'est des moments d'anxiété, on va dire, hein, qui sont. Alors là, il n'y a pas beaucoup de plaisir parce qu'il y a une vraie recherche de comment continuer ou etc. Donc voilà. Et puis après, il y a de nouveau le. Et puis un autre moment de plaisir est celui de la relecture aussi, quand on commence après à virer des choses, à affiner, à lui donner forme, là, commence à sculpter dans le marbre, puis on commence à affiner les choses. Et puis un moment de déplaisir, c'est le tout dernier. Quand on doit corriger les épreuves, c'est-à-dire que c'est juste avant qu'on l'envoie chez l'imprimeur, c'est toujours très ennuyeux parce que, bon, là, avec l'éditeur, on a déjà discuté, mais c'est ces relectures où vous avez une mise en page qui est différente de votre page A4, donc tout d'un coup, votre phrase qui sonnait bien, tout d'un coup, vous avez l'impression qu'elle sonne moins bien. Vous êtes là en train de dire, ah, mais c'est la dernière fois, donc est-ce que je suis vraiment sûr de ce mot ? Parce qu'après, ça sera écrit, c'est écrit. Bon, voilà, alors ça, c'est toujours un moment qui moi, m'agace beaucoup. Puis c'est toujours, ça arrive toujours un peu en stress aussi, parce qu'il y a l'imprimeur, il y a le truc, puis on a toujours peur après qu'il y ait les coquilles, enfin, après, les éditeurs... Enfin, il faut choisir un éditeur qui fasse bien son boulot. Je crois que tous les trois, on en a. Donc, c'est bien. OK, on est tranquille sur cet aspect-là. Mais ce moment des épreuves est un... Voilà. Voilà. Et puis après, il y a le poste quand le livre est paru. Oui. Et ça, c'est...
Il y a d'abord un plaisir immense de le voir, de dire « Ah, ça y est, j'ai fait ça ». Et puis après, il y a une forme de... En tout cas, chez moi, il y a toujours une forme de baby blues de me dire « Ah bon, bah, ça y est, c'est fini ». Ça, c'est fini. Il va falloir faire autre chose. Enfin, il y a une forme de regret, en fait, de devoir
le voyage est terminé.
Et puis je ne peux plus rien faire, je ne peux plus rien changer. S'il y a une erreur, il va falloir que je vive avec pendant des plombs. Elle sera toujours là. Il y a quelque chose de terriblement angoissant, quand même, d'avoir un livre qui est terminé, puis de se dire qu'en fait, sa vie, elle va être longue. Elle peut être très, très longue. Et que si j'ai dit quelque chose, si j'ai écrit quelque chose et que je ne l'ai pas suffisamment réfléchi ou qui m'a échappé et que je me suis planté, je vais me planter pendant longtemps. Donc, c'est assez terrifiant, en fait, de voir un livre comme ça qui, tout d'un coup, débarque en librairie, puis on se fait, oh là là... Enfin, il y a vraiment quelque chose d'angoissant, là, aussi.
Puis, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai jamais relu un de mes livres une fois imprimé. Je déboue, comme ça, de temps en temps, au début, je regarde, OK, et tout. Des fois, je lis un... Mais je ne l'ai jamais relu...
Insupportable. Quand
d'abord, on n'en peut plus le voir, hein, parce qu'il y a un truc. Et puis après, il y a cette crainte de se dire « Ah, mais non, j'aurais pas dû faire ça comme ça. »
C'est pour ça que c'est des
donc,
fois...
Très... Donc, voilà. En même temps, voilà, il y a cette joie. Malgré tout, il y a l'objet qui est chouette.
Ouais, il y a quand même ce genre de manifestation, comme le livre sur les quais, ou le sandwich de Genève, où des fois, on signe, et puis bon, s'il n'y a personne qui vient, ce qui est évidemment regrettable, mais on n'a pas grand-chose d'autre à faire que de relire nos propres livres, finalement. Donc, c'est aussi c'est la dernière.
Mais finalement, c'est vous qui allez donner la caution. Parce que c'est vous, quand on a le retour, surtout. Voilà, il y a l'angoisse de la page blanche. Mais quand vous allez venir vers nous, comme là, vous dites... C'est ça. On dit, ah, OK, bon. Quand on trouve son public, on se dit, ah bon, OK. Mais finalement, ça peut venir que du lectorat, finalement. C'est pas nous qui... On peut avoir un bon sentiment et puis se dire, voilà, j'ai fait plus ou moins, ou j'ai fait ce que je voulais faire. Mais après, voilà, la caution, c'est vous qui la donnerez.
Je vous propose d'en venir au thème de discussion qui était prévu sur le polar. On vous a entendu déjà un peu donner quelques motivations, un peu sur les sujets noirs et ce qui peuvent être, de quoi ils peuvent être porteurs. Maintenant, on peut toujours aussi se demander si ce n'est pas un choix parce que ça marche. Le polar, ça marche, on sait que ça se vend bien. Il y a du sexe, il y a de la violence, ça attire les lecteurs. Est-ce que cet aspect-là n'intervient pas du tout chez vous ? Est-ce que c'était au fond de vous, je veux écrire des choses noires ? pour résumer très grossièrement, ou bien est-ce que c'est un moyen de... Vous avez aussi dit à un moment donné que c'était un moyen de faire passer des idées.
Me concernant, je crois que c'est un peu tout ça. Mmh. Effectivement, le polar, est, par ses contraintes de narration, par la nécessité d'un suspense, d'une tension, de personnages définis, par sa nécessité d'une certaine vraisemblance aussi, pour que le lecteur croie à cette histoire et puis soit en empathie avec ce qui est en train d'arriver... Moi, j'ai le sentiment de pouvoir faire passer beaucoup de choses. J'ai le sentiment de pouvoir décrire beaucoup de choses que je ne saurais pas comment décrire autrement. S'il n'y avait pas une enquête, je ne vois pas comment j'aurais pu parler du négoce des matières premières. Ça aurait été complètement impossible. De la même manière, la crise de Paul Breguet dans les ombres du Métis, suite à son enquête foirée, sa discussion avec le pasteur, tout ça, s'il n'y avait pas eu un suspense, une construction narrative avec un scénario, un début, une fin, quelque chose de finalement extrêmement classique. Parce que moi, j'aime bien aller dans ce classicisme-là, justement pour pouvoir y placer beaucoup de choses. En tout cas, moi, ça m'aide. Mais après, il y a souvent cette question de est-ce que vous avez choisi du polar parce que c'est un genre qui marche. Évidemment, on a envie de faire des choses qui marchent. Évidemment, on a envie d'être lu, puis on a envie de vendre des livres. Enfin, moi, ça me fait plaisir de vendre des livres, puis je suis très content quand il y a des gens qui le lisent. Donc, je dirais pas que c'est la motivation. J'ai pas fait du polar parce que ça marche, parce qu'il y aurait un côté un peu putassier là-dedans. Et j'ai pas le sentiment d'avoir eu cette démarche. En tout cas, c'était pas quelque chose de calculé. Mais oui, j'ai envie que ça marche. Et oui, j'ai envie d'écrire des livres qui sont efficaces, qui fonctionnent, qui sont plaisants à lire, qui sont addictifs. J'ai envie d'aller là-dedans. C'est clair. Il y a pas seulement la noblesse de l'écriture, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'efficace, du très trivial, il faut que ça fonctionne. Mmh. Et j'aime assez... le polar permet ça.
Oui, Quentin Mouron ?
Bon, je pense déjà, c'est vrai de dire que le polar est un genre qui marche bien, mais il faut aussi préciser qu'il y a énormément d'auteurs, et donc, par conséquent, la concurrence est rude, féroce, et si on prend même les grandes ventes en France, par exemple, et en Suisse, ne sont pas vraiment... Oui, il y a quelques polars, mais enfin... Lévy, Musso, l'équipe, tout ça, ils n'écrivent pas de polar. C'est le polar, oui, se vend beaucoup, particulièrement le polar nordique, le polar anglo-saxon, mais en même temps, il y a tellement d'auteurs. Quand on dit les nordiques marchent bien, il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de nordiques qui écrivent et dont on n'a jamais entendu parler, qui ne sont même pas traduits. Donc la concurrence est aussi plus féroce. Et donc je pense que ce n'est pas vraiment par convenance. La convenance du polar, elle n'est pas vraiment au niveau financier, au niveau, en tout cas pour moi, c'est plutôt... au niveau de la liberté qu'on a et presque l'obligation, comme on a l'obligation de mettre une trame aussi légère soit-elle, on peut aller assez loin finalement et on peut développer toutes sortes de choses, des thèmes qui sont peut-être pas ceux du polar traditionnel, mais on peut aller assez loin avec. On peut simplement se libérer. Vous savez, quand vous avez un roman un peu. Enfin, un roman, je sais pas comment on dit quand on n'a pas de polar, enfin un roman traditionnel, enfin un roman de la générale, on dit blanc, voilà, blanc, la collection blanche. c'est par exemple que vous avez un meurtre. En général, c'est un peu la fin du roman. Enfin, il y a un meurtre, on va pas mettre, on va pas en mettre 15, quoi, normalement. Tandis que le polar, ça permet de cette espèce de multiplication, banalisation aussi de certains crimes. Et puis pour moi, en tout cas, c'est un peu le cas. Enfin, l'avantage dans un polar, c'est que d'un coup, il peut y avoir un personnage qu'on retrouve mort. On n'a pas besoin d'expliquer pourquoi. En tout cas, on n'a pas besoin de donner trop de détails. Tandis que si vous faites un roman blanc, le lecteur va quand même attendre que le crime là qui arrive, il n'arrive pas par hasard. Il faut quand même le justifier, le motiver, peut-être métaphysiquement, physiquement, socialement. Et le polar, pour moi, c'est une grande liberté. Alors, je vais peut-être pas en rester longtemps au polar. Alors, peut-être le fast, en tout cas, peut-être le fast continuera et que moi, je me ternirai, mais je vais pas rester. Je suis sur autre chose maintenant. Mais c'est vrai que le polar m'a permis une certaine liberté, en tout cas.
Le mot efficace vous parle aussi ?
Oui.
Oui.
En tout cas.
Oui.
Si ça parle aux autres, mais c'est vrai qu'il y a une efficacité parce qu'il y a une espèce d'économie de moyens. Il y a plein de choses que le lecteur attend, donc puisqu'il les attend, il les trouve facilement. Et puis, une fois qu'il les a trouvés, on peut partir sur autre chose.
Voilà.
Mais je crois que c'est un peu une fausse question parce que c'est pas parce que c'est estampillé polar qu'il suffit de mettre polar, puis c'est bon, vous avez vendu 10 000 exemplaires. Non, un livre, c'est toujours difficile à vendre. C'est un travail de diffusion d'éditeur. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose de... Et comme dit Quentin, il y a énormément de concurrence, oui, et donc, voilà. Moi, par exemple, mes premiers livres sont pas des polars, c'est pas de la blanche, c'est pas du noir, c'est du gris. Puis tout d'un coup, un jour, Patrick Reynal, qui était l'ancien directeur de Gallimard, série noire, qui avait à l'époque publier, créer une série qui s'appelle La Noire, où il publie plein d'auteurs qui ne font pas du tout forcément d'enquête. Je pense à Harry Cruz, un auteur qui parle de gens qui sont dans la marge, etc. Sur des Et il était à ce moment-là chez Fayard, puis il me dit, je te le publie. Puis donc, chez Fayard, c'était sur Fayard Noir. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Parce qu'en fait, finalement, à part un livre que j'ai écrit, qui est un hommage au détective novel hard-boiled américain, qui est Misty, à part ça, mais d'ailleurs, mon livre de polar avant celui-ci se passe sur une autoroute. Il est dans une collection blanche chez Finitude. Après, il se trouve qu'il gagne un prix en polar. Il l'avait mis chez les libraires à la blanche. Après, Prebelote, on le met à la noire. Et le prochain, ils vont être vraiment emmerdés parce qu'effectivement, c'est une tragédie, mais ce n'est pas du polar du tout. Donc voilà, alors c'est comme ça. Les éditeurs se tirent les cheveux. Chez Payot, ils ne savent plus où le mettre. Du coup, je dis, mettez-le un peu partout. Comme ça. Mais c'est vrai, mais c'est une vraie question. Et moi, je sens une chose qui est comme par rapport à ces polar romans, Vie des Orphas, ces choses-là. J'aime bien parce qu'effectivement, ils sont un peu plus jeunes que moi quand même, mais cette génération qui arrive comme ça est beaucoup plus décomplexée aussi de parler comme vous parlez, parce qu'on dirait que jusqu'à hier, en Suisse romande, on écrit pour la littérature, et puis que si on ne faut surtout pas vendre trop de livres parce que ce n'est pas bien vu, quoi. D'un côté un peu protestant comme ça, un peu suisse. J'appelle ça le syndrome du quart de finale. La Suisse arrive à la Coupe du Monde. Ouh, c'est déjà bien d'être là. Non, on peut peut-être arriver plus loin. Donc voilà. Et il y a ce côté, effectivement, il y a le plaisir de l'écriture, il y a le plaisir de la littérature, puis il y a le côté... Moi, je suis très anglo-saxon pour ça. D'ailleurs, j'aime beaucoup, et dans le style, et dans la façon d'aborder les choses, je lis beaucoup d'Américains, etc., l'efficacité, mais aussi l'efficacité lorsqu'il s'agit de vendre le livre. Il faut arrêter tous ces trucs, parce que tout le monde nous parle de l'art, là. Oui, mais c'est un truc, c'est les romantiques du 19e en France qui dans la mansarde et tout ça, quoi. si je peux écrire de manière un peu plus confortable, je crache pas dans la soupe non plus. Enfin, voilà.
J'étais souvent rentier en plus. Hein,
ouais, en plus, voilà, c'est une aristocratie la plupart du temps qui écrit.
Mais est-ce que, question morale qu'on vous pose sans doute souvent, vous n'avez pas l'impression de participer à enlaidir le monde avec des personnages qui sont pas très, dont les facettes sombres prédominent souvent, avec des situations glauques.
Je crois que le monde, il a vraiment pas besoin de nous.
Hein. Le lecteur peut être très,
très,
aussi,
très bien tout seul.
Non, je pense qu'au contraire, parce que j'ai l'habitude de dire que... Parce que moi, par exemple, on parle... Alors, si on prend les grands classiques, je ne sais pas, vous prenez Lolita Nabokov, c'est un pur roman noir qui se finit avec un meurtre. En plus, il y a l'aspect un peu... on peut dire qu'on est déjà dans la pédophilie, etc. C'est un roman purement noir. Anna Karenine, elle finit sous un train. À la fin, elle se suicide. C'est une pure tragédie grecque. Donc, ce que je veux dire, et ce sont des grands classiques qu'on lit à l'école, etc. Donc, voilà, ce que je veux dire, pour moi, ces livres-là sont les livres d'histoire. Parce qu'effectivement, moi, j'ai eu Jean Ziegler comme prof en sociologie. Et puis, il y a Les Vivants et les Morts, il y a tous ces bouquins qu'il a écrits. Mais effectivement, lui avait déjà un style un peu plus littéraire. Donc, ça rend ses livres plus intéressants à lire que les trucs, les essais purs et durs comme ça. Mais c'est vrai que là, vous allez apprendre des choses sur, effectivement, le négoce international, sur une forme de cynisme, etc. Mais voilà, mais c'est ça. Moi, il y a plein de romans noirs qui sont mes livres d'histoire. J'ai beaucoup plus appris sur la littérature, sur l'histoire russe en lisant Tolstoï qu'en lisant mes manuels d'histoire. Parce qu'en plus, il y a la forme. En plus, il y a des personnages qui vous donnent envie d'aller plus loin. Voilà, c'est ça qui... Et puis, on dit plein de choses. Comment s'habillent les gens, quelles sont les inquiétudes aussi. Un livre qui est fait en 2016 aujourd'hui, les thèmes, ils évoquent une inquiétude qui est plus globale, qui est celle juste ça, je veux pas trop, mais il y a Stephen King a écrit un essai qui s'appelle Anatomie de l'horreur, où il parle depuis les années 30 jusqu'aux années 90 des films d'horreur, de la littérature d'horreur. Et c'est génial parce que à chaque époque, les peurs qui sont montrées dans le cinéma ou dans la littérature, correspondent à des peurs, à des phobies sociales, à des choses cachées en fonction des époques. Et ben voilà, c'est ça, ces livres qu'on écrit aujourd'hui vont exprimer des choses d'un temps, d'une époque. Et peut-être le roman noir s'autorise ce regard plus social, plus large, alors que souvent, effectivement, dans La Blanche, c'est beaucoup mon petit nombril, mon petit bébé, je suis enceinte, j'arrive plus à écrire, comment je pourrais faire. Enfin voilà, c'est beaucoup, on est plus sur le renfermement. Là, on s'ouvre quand même un peu plus sur le monde. J'ai l'impression.
Oui. Dans la noire, on ouvre le ventre à coups de couteau, on dévore le bébé.
Voilà.
Et ça nous fait rire. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Oui. Alors,
je rebondis un peu sur ce que vous avez dit et sur ce que Quentin a dit aussi. Concernant, vous avez commencé en disant, vous êtes venu à l'écriture presque de manière inéluctable. C'était le métier qui dépassait tous les autres métiers. Et puis, vous avez été catégorisé plus ou moins volontairement dans le noir, dans le polar. Quentin, ses premiers romans ne sont pas des polars. Mais en ce moment, les trois, vous êtes avec cette étiquette de polar. Et vous disiez tous les deux, tous les trois, en fait, que c'était un moyen comme un autre d'exprimer, de parler de plein de choses. Mais est-ce qu'une fois qu'on entre dans une catégorie comme ça, qu'on est catégorisé par les lecteurs, par les éditeurs, par la FNAC, par Payo, est-ce qu'on peut glisser vers autre chose? Ou est-ce que l'un d'entre vous, tout d'un coup, va faire un roman de science-fiction? Parce que ça aussi, c'est quelque chose de très fermé. Ah, c'est de la fiction, c'est des machins avec des extraterrestres et tout. Est-ce qu'on peut glisser du polar au roman de mœurs ou à autre chose? Ou est-ce que vous pensez que vous avez pris une voie qui vous limite quelque part après pour passer à autre chose? Dans le sens de limiter les thèmes, pas les idées débattues, bien sûr.
Bon, moi, personnellement, je me sens absolument libre avec ça. Je m'en fiche, l'éditeur des fois un peu moins, mais voilà. Et preuve en est, en plus, je publie en Suisse et en France, donc les marchés sont pas les mêmes, les réceptions sont pas les mêmes. Mais moi, je tenais absolument à que ces choses-là se fassent ici, parce qu'il y a aussi quelque chose qui s'inscrit dans une histoire personnelle que je trouve logique, après avoir été immigré en Suisse, d'avoir que ce livre soit publié par une maison dans la ville où je suis né, parce que je suis né à Lausanne. Après, je suis parti, mais je suis né à Lausanne. Jusqu'à 6 mois, j'ai vécu. Donc, voilà, je pense, c'est une sorte de chose. Voilà, mais pour le reste, non. Mais moi, je crois qu'il faut, par rapport à ça, il faut qu'on se sente libre. Il faut essayer de faire le meilleur livre possible, faut faire un bon truc. Et puis, si le truc marche, fonctionne, il est bien, eh ben, il trouvera des gens qui vont le lire. Et puis après, finalement, c'est pas notre boulot, hein. C'est aux éditeurs de trouver le truc, de broder là-dessus. Mais c'est pas gagné, hein. C'est une question intéressante que vous posez là.
Oui. J'ai pas encore été confronté à ça, parce que pour l'instant, j'ai fait que 2 polars, et puis le troisième en sera probablement un, et puis après, j'ai encore envie d'en faire. Mais je sais aussi que j'aurais pas forcément envie de faire que ça, justement. Prenez l'exemple de glisser vers le fantastique, ça c'est un truc qui m'intéresse assez, qui m'attire. Autant en tant qu'écrivain, je me sens libre de faire absolument ce que je veux. En tant que représentant commercial de mes œuvres, là, je sens que si je glisse vers le fantastique, bah, il va falloir recommencer depuis le début. Parce que je vais être étiqueté auteur de polar, et en fait, les lecteurs de fantastique, ils n'ont aucune idée que j'existe. Et si je me mets à en faire, les lecteurs de polar ne vont pas forcément suivre, parce que le fantastique, ce n'est pas leur tasse de thé. Donc, il va falloir recommencer. C'est comme... ouais, voilà, on va faire une autre carrière.
Et vous maîtrisez l'outil, ça vous permet peut-être cette efficacité.
Effectivement, voilà. Après on est déjà passé par là, et puis on connaît un peu les canaux, donc ça sera
probablement
plus facile.
Ça serait un problème marketing pour lui, qui se poserait sérieusement. Et les éditions Zoé vont faire peut-être une collection verte pour science-fiction, je ne sais pas, mais ça poserait un vrai problème, effectivement.
Si je fais du fantastique, à mon avis, il faudra surtout que je trouve un autre éditeur. Ouais, je ne pense pas que Zoé me suive sur du fantastique, ce n'est pas du tout leur rayon. Déjà, je suis le seul à faire du polar chez Zoé, c'est une exception. Donc déjà là, j'ai eu de la chance, mais vraiment, voilà, si je veux après explorer d'autres gens, il va falloir que je trouve l'éditeur qui correspond.
Oh, j'ai beaucoup glissé, alors.
Chuté.
Chuté. Mais c'était un peu particulier, mais je crois que quand on écrit, alors surtout quand on n'a pas écrit de polar, enfin c'est l'éditeur surtout qui vous annonce que vous avez écrit un polar. Moi c'est vrai que j'ai pas écrit, mais j'ai changé d'éditeur en même temps avec ce quatrième roman, mais j'ai pas écrit vraiment en disant c'est un polar. Pour moi il y avait des éléments, évidemment des motifs. Il y avait un crime, on commençait par un crime, mais finalement... il y a beaucoup de romans qui finissent par des crimes mais qui ne sont pas des polars, ou qui en général ils finissent. C'est vrai que la différence entre collection blanche et noire, c'est que le noir on commence par le crime mais blanche on finit.
Ou alors des fois on a de la blanche, que quand il y a vraiment, on sent qu'il n'y a plus vraiment d'idées, alors on introduit un petit crime pour dynamiser la chose.
Oui, un petit truc, oui, exactement, c'est un peu le piment, c'est exactement. Mais ça s'est passé assez naturellement. Moi j'ai écrit un roman et puis ensuite J'ai donné un éditeur qui a proclamé que c'était un polar, mais comme celui-ci. D'ailleurs, moi, si on me demande, je dis jamais que c'est un polar. C'est l'éditeur, c'est le lecteur, c'est le livre sur les quais qui m'invite à la table ronde polar. J'en suis très flatté, mais enfin, c'est... À mon avis, je ne réponds pas du tout au code, déjà parce que je ne les connais pas très bien. Donc, c'est assez facile à partir de là de naviguer. Moi, j'écris un texte et puis ensuite, l'éditeur fera le travail. Je suis d'accord avec Sébastien.
C'est ça, c'est que polar, c'est à la fois c'est un genre littéraire, c'est sûr, mais qui est extrêmement flou. Les frontières du polar, de la littérature blanche, du roman noir, du roman de mœurs, du roman de société, on n'a finalement pas une grande idée de où ça commence, où ça s'arrête. Donc, le polar, c'est à la fois un genre, mais c'est surtout aussi un canal marketing. C'est de faire une couverture noire au lieu de la faire blanche pour se démarquer, pour faire autre chose, pour faire autrement. Mais finalement, tous les livres fonctionnent comme ça. Enfin, poésie en prose, littérature blanche, la différence, parfois, elle est aussi extrêmement floue, mais dans tous les canaux de vente, que ce soit à partir de l'éditeur, au distributeur, au chargé de com, au libraire, au festival, etc., il y a des limites qui sont fixées, et après, on se glisse dans l'une ou dans l'autre. Voilà.
Mais d'ailleurs, il y a plein d'auteurs, Pénac, c'était Série Noire. Hein. Et bon, après, on a décidé, on s'est dit, ah, mais si on le met dans la blanche, on va en vendre plus. Parce qu'il y a aussi, ça se vend bien, le polar, mais ça plafonne au bout d'un moment. Par contre, parce que vous ne pourrez jamais être prix Goncourt, le maître qui a eu le prix Goncourt, mais ce n'est pas sur un polar. Donc, il y en a eu un autre, je ne me souviens plus, qui est décédé il y a quelques temps, qui était aussi un auteur de polar, mais il l'a eu sur un autre livre qui n'était pas un polar. Donc après, on se dit, tiens, on va faire basculer Philippe Jean pour être très bien être un auteur de noir, au fond. Hein, il y a toujours des meurtres chez lui, il y a toujours des trucs. Il se réveille avec une étudiante morte dans sa bagnole. Son personnage, 37 de le matin, c'est un roman noir, finalement. Enfin, voilà. Et donc, ces choses-là sont vraiment... c'est vraiment purement du marketing, je pense. Et le polar, encore une chose, c'est vraiment une nébuleuse. Ouais, il a raison, Sébastien. À l'intérieur de ça, il y a des sous-ensembles. Il y a le roman noir, il y a le thriller politique, le roman enquête, le détective novel. Voilà. Donc, polar, ça veut tout et rien dire.
Est-ce que vous en lisez beaucoup? Est-ce que ça imprègne votre inspiration? Ou bien est-ce que vous lisez de tout, aussi du blanc, de la littérature amoureuse, je ne sais pas.
Pour moi, je lis de tout. Ça va du polar à l'essai, en passant par des livres d'histoire, en passant par des biographies, de la littérature blanche. Enfin, c'est extrêmement éclectique.
Moi, je lis pas beaucoup de polar quand je prends l'avion des fois, mais assez rarement. Enfin, je suis pas du tout un grand lecteur de polar. Alors, c'est pour ça que je suis très heureux d'apprendre que je transgresse des codes, mais en fait, je les connais pas, donc c'est assez facile de les transgresser. Donc, je suis pas un grand lecteur de polar.
Vous n'avez pas étudié James Ellroy et autres.
J'ai un peu lu, bien sûr, Voilà. Ils sont tombés entre les mains, parfois des mains, enfin dans le cas d'Ellroy, mais disons, il y a d'autres auteurs de polar que j'aime bien, ouais, mais je suis pas un grand lecteur de polar.
Mais moi, pareil, je lis de tout. Après, voilà, j'ai une prédilection peut-être sur des choses qui sont plus effectivement sur entre guillemets du noir. Mais bon, voilà, je parce que justement, je crois que ce qui est bien d'enrichir cette culture noire, c'est celle de justement intégrer des choses qui viennent d'ailleurs. Vous avez pas mal d'auteurs américains. Je pense à James Salis, celui qui a écrit le film. Ils ont tiré le film Driver, avec le conte Driven ou Driver, je ne sais plus, qui a eu un prix avec ce gars qui est chauffeur pour des braquages de voitures. Drive, voilà. Vous avez peut-être vu il y a quelques années. Enfin bref, James Salis est un poète. Richard Hugo, l'école du Montana, était un poète. Et ça se sent dans leur écriture. C'est une écriture très très ouverte. Voilà, il y a de la pure poésie dans des. Sauf que voilà, c'est le mec, c'est un shérif dans un coin, et puis il a une pseudo enquête à résoudre parce qu'effectivement, même chez Chandler, on comprend rien du tout. L'enquête, c'est de bordel absolu. Chez Ahmed, c'est pareil. Et alors que ce sont les pères du détective novel machin et tout. Donc voilà, je crois que c'est bien de lire de voilà. Je dirais un truc qui est bon, quoi.
Mais en tout cas, moi, il me semble que pour réussir à faire un bon roman, j'ai une quantité de documentation aussi à encaisser. Donc, en fait, une bonne partie de mes lectures, c'est la documentation pour fournir du contenu à mes polars. Ouais. Moi, j'adore lire. Quand je tombe sur un bon polar, je suis toujours extrêmement fasciné. Je me dis, mais comment il a fait ça? Comment il a posé son intrigue? Qui sont ces personnages? Ça me fascine assez. Enfin, les rouages narratifs qui sont mis en place parfois sont exceptionnels. Et ça, en fait, Souvent, j'en lis en fait pour me stimuler. Je me dis, ah putain, je vais faire ça. Je vais réussir, je vais faire mieux.
Il n'y a pas de mode d'emploi. Est-ce qu'il existe des modes d'emploi? Il en existe pour les romans d'aventure, par exemple, mais pas pour les polars.
Je pense pour Agatha Christie, il y avait sans doute une forme de. Il y avait d'ailleurs, je ne sais plus si c'est en 1910 ou 20, ils avaient posé les 20 règles du roman policier, qui étaient des règles très strictes, qui étaient, c'était le code qu'il fallait suivre, ne pas cacher de personnage, ne pas révéler d'incongruité dans la vraisemblance du récit, etc. Le premier qui avait un peu... après, voilà, la figure du dur à cuire, du détective qui boit du whisky à la Marlowe, Humphrey Bogart, tout ça, c'est arrivé. Après, ça a cassé tout ça, mais il y avait vraiment des codes très précis. Mais je crois que maintenant, non.
Bon, quand même, il y a justement la règle de la vraisemblance qui est quand même assez importante.
Oui, après, oui.
La cohérence du récit. Et puis, effectivement, si on fait une chute ou la révélation de l'intrigue à la fin, et puis qu'en fait, on fait comme par magie sortir un élément d'un chapeau et le lecteur n'a rien vu venir, on ne lui a jamais parlé de cet élément, ça marche absolument pas. On ne peut pas faire des choses comme ça. Donc il y a quand même encore des règles pour avoir des chutes, pour avoir des rebondissements, pour avoir de la crédibilité, puis pour qu'il y ait du plaisir, parce que sinon on a juste l'impression de se faire arnaquer.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, curiosités? Je sais pas si vous allez encore en dédicace ou bien c'est
oui. Oui, une petite heure, quoi, oui, je pense.
Jusqu'à 19h. Ouais, je sais pas quelle heure il est là.
6h moins quart.
6h moins quart.
Ouais, jusqu'à 19h.
Bah, je crois qu'on arrive à peu près au bout. Donc, si personne n'a une question qui lui brûle les lèvres, je vous propose de finir là. Merci beaucoup à nos trois invités.
Merci.